Alors, mes amis, ce matin, continuons notre étude sur le thème les droits du Fils de l'homme. Nous nous sommes penchés sur le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, dans ce 14 du 8e mois de cette année. Je demanderai à l'animateur de la clé numéro 1 de répondre à la première question. On va relire une fois encore ce chapitre, parce que je pense que ce sera la meilleure réponse. Vous avez évidemment bien couvert aussi cette étude, répondu. C'est juste ce que vous avez dit aux questions, mais peut-être qu'on pourrait avoir plus de précision. Vous voulez changer de position et chanter un cantique? Alors, mes amis, l'auteur de ce chapitre 7 aborde maintenant le sujet glorieux de la sacrificature du Christ qu'il mettra en contraste avec celle d'Aaron ou de Lévi, qui est le père d'Aaron, enfin il est descendant de Lévi, c'est Aaron, et pour montrer l'immense supériorité donc de la sacrificature du Christ. Je vais faire remarquer, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, que 10 fois, le nom de Melchisédek revient dans ces chapitres, avec le chapitre 7, où il est fait une dernière fois la mention de Melchisédek. On trouve donc 10 fois ce nom. Les deux passages de l'Écriture que vous avez découverts, et qui nous parle de Melchisédek, c'est donc, comme vous l'avez dit, et je pense que vous l'avez lu, c'est au chapitre 14 du livre de la Genèse. Mais le meilleur moyen, c'est de relire ce texte. Nous savons que 5 rois ont attaqué les rois de Sodome et de Gomorre, et que on a fait captif le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot. Ce Lot qui s'était séparé d'Abraham et avait choisi la meilleure portion du territoire et qui se trouvait être les plaines fertiles de Sodome avant la destruction de ces villes. Il a levé les yeux et il n'a vu que ses intérêts et il a laissé Abraham dans la montagne, dans la contrée la plus aride, et lui, le plus jeune, qui avait été élevé par son oncle, puisqu'il était orphelin, s'est installé d'abord près de Sodome, puis ensuite dans Sodome, et il a même fait de la politique, puisqu'il est devenu un des chefs de Sodome. Il était à la porte de Sodome, c'est-à-dire là où l'on gouvernait la ville. Et malheureusement, il n'a pas considéré que les gens de Sodome étaient de grands pécheurs aux yeux de l'Éternel. Il n'a vu que ses intérêts, mais comme il était pieux, il a pensé qu'il pourrait résister à toutes les tentations. Mais s'il pouvait lui résister, il n'allait peut-être pas en être de même pour sa femme. Quand on déménage, eh bien, on doit penser où l'on place sa femme. Si elle vous trompe après, c'est peut-être de votre faute. Vous n'aviez pas besoin d'aller là. Et puis, si vos enfants tournent mal, si vos enfants épousent des incrédules, il vous faudrait aussi vous souvenir que peut-être vous n'avez rien fait pour les mettre en contact avec des personnes qui sont sérieuses. Et on est vite contaminé quand on est jeune. Et c'est ce qui est arrivé, hélas. Et alors, non seulement cela, mais le choix de Lot s'est révélé un peu désastreux, puisqu'il y a eu la guerre et qu'il a été emmené captif avec tous les siens et le roi de Sodome. Alors, quand Abraham a su ça, la première chose qu'il a fait, c'est d'oublier l'ingratitude de son neveu. Il a monté en une nuit une expédition et il a attaqué les cinq rois et les a vaincus. Avec peu d'hommes, mais en agissant rapidement, il a réussi à délivrer son neveu Lot, mais pas seulement son neveu, mais le roi de Sodome. Et à ce moment-là, quand il revenait, verset 14, verset 17, je crois, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem. C'était Jérusalem, avant qu'on l'appelle Jérusalem. Mais Salem veut dire roi de paix. Roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Ça vous fait penser à quoi, ça ? À la Sainte Seine, hein? On pourrait étudier tout cela aussi dans ce contexte. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il serait très intéressant pour vous de chercher dans la Bible chaque fois que Dieu est appelé le Dieu très haut. C'est toujours en rapport avec le millénium, l'ère millénaire, où la justice et la paix régnera. Que Dieu est appelé le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Quand est-ce que l'on verra vraiment un Dieu maître du ciel et de la terre, qu'on le verra, il en est le maître, n'est-ce pas? Mais on ne le voit pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un usurpateur qui domine le monde et qui est Satan, qui est appelé le prince de ce monde. Mais rien n'appartient à Satan, il n'a rien Satan, il a usurpé ce droit. Qui est-ce qui aurait dû être roi de ce monde, prince de ce monde? C'était Adam. Si Adam n'est pas été resté dans la ligne de Dieu, eh bien c'était lui qui devait dominer sur toute la terre. Mais il a failli, il a écouté l'adversaire, et l'adversaire a pris l'occasion de dominer sur l'homme. De sorte qu'Adam, en se soustrayant au gouvernement de Dieu, s'est placé sous quel gouvernement? Le gouvernement de Satan. De sorte que, voulant être libre, l'homme est devenu un esclave. Il était libre avant la chute. Mais ce qu'il a voulu, c'est devenir indépendant. Et cela, l'indépendance, c'est l'apanage d'aucune créature. On ne peut pas être indépendant puisque nous sommes des êtres créés. Nous dépendons d'une cause première et nous ne pouvons pas l'ignorer. Alors, je continue la lecture. Ce sacrificateur du Dieu très haut, donc de celui qui manifestement sera le très haut quand Satan aura été lié et que le règne du Seigneur se manifestera et qu'il y aura de nouveau des relations entre le ciel et la terre. Comme Jésus le disait dans le chapitre 1er de Jean, à Nathanaël, vous verrez bientôt les anges montant et descendre sur le Fils de l'homme. Il y aura pendant l'ère millénaire des relations constantes entre le ciel et la terre. On n'aura pas peur d'objets non identifiés, des ovnis. Il y aura justement constamment une relation entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. L'état actuel n'est pas du tout un état normal. Un ciel fermé, un ciel silencieux, ce n'est pas cela qui était dans la pensée du Seigneur. Alors, ceci dit, passons verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alors ici tout de suite, vous pouvez déjà répondre quand vous lisez le texte à une question qui peut-être se posait à votre esprit quand vous lisiez l'histoire de ce personnage mystérieux dans le chapitre 7 des Hébreux. Vous vous êtes peut-être posé cette question, mais est-ce que Melchisédek n'était pas le Seigneur, hein, n'était pas un être supérieur, ou est-ce que c'était réellement un homme? Alors il y a des théologiens qui ont pensé que ce Melchisédek était tout simplement comme une théophanie, comme une apparition que Abraham aurait eue, comme Moïse a eu, comme Josué a eu, comme Gédéon a eu, comme Manoah a eu, et que ce serait plus qu'un homme. Eh bien, nous ne le croyons pas. Nous croyons que c'était un homme, mais qui avait reçu de Dieu ce sacerdoce. Mais alors, nous apprenons que ce sacerdoce, il l'exerçait avant quelle sacrificature? Avant celle d'Aaron. Nous apprenons que la sacrificature, au fond, d'Aaron, dont les Juifs se glorifiaient, eh bien, n'était pas la première. Qu'il y avait, avant l'instauration de la sacrificature aaronique, une autre sacrificature qui dépendait directement du Dieu très haut, avant la loi. Donc, la pensée de Dieu, il est le Dieu seulement du peuple d'Israël, il est le Dieu de tous les hommes et de toute chair. Donc, ses compassions et ses voix, eh bien, se manifestent avant l'appel d'Israël. Et Israël ne sera dans sa main qu'un instrument pour faire connaître ses pensées et sa loi. C'était cela, n'est-ce pas? Mais les révélations de Dieu n'ont pas commencé avec Moïse, ni même avec Abraham. Il y avait, avant Abraham, des hommes qui servaient le Dieu très haut. Alors, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et qui est-ce qui parle comme ça? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce serait le Seigneur, ça, qui dirait ça? Non, c'est un homme. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Notez bien cela, parce que c'est ça qu'il fallait lire pour pouvoir donner les réponses exactes aux questions que j'ai posées. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Et alors là, vous avez cet exemple merveilleux. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Vous voyez combien de fois ça revient, maître du ciel et de la terre. Ça revient plusieurs fois dans le même passage. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ou un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Il ne veut rien de ce qui vient du monde. Rien pour moi. Or, nous, tout ce qu'on peut tirer du monde, la plupart du temps, on le fait. Eh bien non, la richesse d'Abraham, c'est qui? C'est son Dieu. Il ne veut pas être enrichi
par le roi de Sodome. Il est complètement désintéressé. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Rien pour moi. J'aime beaucoup cette parole. Voilà donc ce que nous savons de ce Melchisédek. C'est ce simple récit. Et puis, après, historiquement, on n'en entend plus parler. On ne sait rien de sa naissance. On sait seulement qu'il était roi de Salem, roi de justice, roi de paix. Et puis, il en est question ensuite dans la bouche de David. Et David, quand il a écrit les psaumes, il les a écrits comment ? Dans des moments comme ça, il était poète, et puis déjà très jeune, quand il était en train de garder les brebis, eh bien, il a composé des psaumes, des poésies. On voit qu'il observait la nature. « Seigneur, quand je contemple l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, qu'est-ce que l'homme ?» Oui. Et au chapitre 23 du deuxième livre de Samuel, il est dit au sujet de David, lorsqu'il va mourir, les dernières paroles de David sont celles-ci. « Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob. » Loin, c'est donc un roi qui a été oint d'huile. Je vous ai parlé de l'onction que recevaient et les sacrificateurs, et les rois, et les prophètes. Hein. De chantre agréable d'Israël, c'est ce qu'était David. L'Esprit de l'Éternel parla par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël m'a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir la verdure, etc. Voilà donc qui est David. Et dans d'autres passages du Nouveau Testament, les apôtres soulignent toujours que ce que David a écrit, il ne l'a pas écrit lui-même, mais inspiré par le Saint-Esprit. C'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul qui dit ces choses. Alors, nous avons au psaume 110, un psaume justement de David. Et nous le lisons. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » C'est donc un psaume messianique, comme on les appelle. Tous les Juifs le reconnaissent, enfin les Juifs orthodoxes. Ce psaume est classé dans les psaumes qui concernent le Messie. Vous savez que les Juifs orthodoxes attendent le Messie en se basant sur la parole de Dieu. Mais ce qui a trompé, au fond, les Juifs du temps du Seigneur, c'est qu'ils ont pris seulement les psaumes messianiques ou les textes messianiques qui parlaient de la gloire du Messie. Et ils ont oublié les psaumes messianiques qui parlaient de son humiliation, de son abaissement et de son sacrifice. Et alors, ils ne l'ont pas reconnu. Étant donné la situation dans laquelle les Juifs se trouvaient en Palestine quand Jésus est né, eux pensaient que le Messie devait les délivrer immédiatement du pouvoir des Romains, puisqu'il devait être le roi qui devait conduire le peuple d'Israël à la tête de toutes les nations. Et malheureusement, ils ont vu en Jésus un homme doux et humble qui n'insistait pas sur ses droits, qui disait qu'il fallait pardonner 70 fois cette fois, qui condamnait l'esprit de vengeance et qui acceptait même de payer l'impôt aux romain. Alors que eux, ils attendaient un messie politique, national et religieux. Ils s'étaient fait une image à eux du messie, tout en prenant des textes de l'écriture. Mais comme l'image qu'ils s'étaient faite ne correspondait pas à ce Jésus de Nazareth, eh bien, ils ont pris Jésus pour un imposteur. C'est très dangereux de se façonner une image du Seigneur en dehors de tous les textes de la parole. S'ils avaient mieux lu l'Écriture, ils auraient vu que le Seigneur devait venir une première fois comme l'agneau de Dieu qui allait par son seul sacrifice abolir tous les sacrifices et qu'il venait comme le Messie souffrant, comme le serviteur de l'Éternel. Vous avez quatre tableaux dans le prophète Ésaïe qui montraient le serviteur de l'Éternel qui viendrait dans l'humilité, non pour être servi, mais pour servir. Et ils auraient vu aussi dans Daniel que loin du Seigneur serait retranché. Et en lisant les psaumes aussi, ils auraient compris qu'il devait être retranché à la moitié de ses jours. Mais une fois que le Seigneur serait venu dans l'humiliation et dans l'abaissement pour régler la question du péché, il reviendrait une seconde fois et 1500 textes dans l'Ancien Testament ne sont pas encore accomplis et concernent le retour en gloire du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Pierre nous montre très bien cela, et c'était le travail des prophètes. Ils sondaient dans les Écritures, et j'aimerais bien que vous ayez cet esprit comme les prophètes qui ont prophétisé au sujet du Seigneur. Chapitre 1er de la première de Pierre. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc les prophètes, quand ils ont dit quelque chose, ils l'ont dit par quel esprit ? Par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance, quoi d'abord ? Les souffrances de Christ. Lisez Ésaïe 53, lisez le psaume 22, vous y trouverez au fond les faits évangéliques de l'histoire de Jésus. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Est-ce que vous la voyez cette gloire maintenant? Après les souffrances de Christ, est-ce que vous voyez maintenant la gloire sur la terre? Non. Cette gloire qui doit suivre est encore à venir. Nous attendons maintenant non plus un Messie et qui naîtra dans l'humilité, mais un Messie glorieux qui apparaîtra comme le Fils de l'homme sur les nuées du ciel. On verra le signe de l'homme d'un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Et cette venue sera soudaine. Et il viendra alors dans tout l'éclat de sa gloire comme le lion de la tribu de Juda. Il est venu une première fois au temps de Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. Il revient comme le lion parce qu'il vient pour juger et il vient pour régner. Et il anéantira alors ses ennemis. Mais dans cette époque-ci, nous sommes dans l'époque de la grâce, dans l'époque du temps de la patience de Dieu, où Dieu laisse les choses aller, non pas parce qu'il ne veut pas intervenir, mais parce que si nous sommes des gens scandalisés parce que Dieu n'a pas encore anéanti, par exemple, l'ayatollah Khomeini, que vous n'aimez peut-être pas trop, eh bien, on se dit, mais comment est-ce qu'il peut laisser des choses pareilles? Pourquoi est-ce que Dieu n'anéantit pas le méchant maintenant? C'est parce qu'il voudrait lui donner une occasion de se détourner de ses voies et de vivre. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais sa conversion et sa vie. Mais il viendra un temps ou sa patience a un terme, s'il y a une vie dans sa faveur, il y aura un jour dans sa colère. Il y a une vie dans sa faveur, mais dans sa colère, il y a un jour. Mais ce jour de la colère de Dieu vient sur le monde. Et tout le monde le pressent. Quelque chose va se passer. Ça ne peut plus aller ainsi. J'ai dit l'autre jour que Billy Graham avait cité cette parole que si Dieu n'anéantissait pas, par exemple, une ville comme Amsterdam, eh bien, on dirait qu'il est il a été injuste vis-à-vis de Sodome et de Gomorre. Aujourd'hui, en 1980, la vie à Amsterdam ou en Suède aussi, peut-être aussi à Montréal, est si corrompue qu'il y aura un moment où Dieu ne pourra plus laisser les choses aller. Mais on ne sait plus ce qu'est le bien et le mal. Tout est permis, comme le disait Nietzsche, ce génial dément, au siècle dernier, il disait « Je suis en train de transvaluer les valeurs. Ce qu'on appelle bien s'appellera mal, ce qu'on appelle mal s'appellera bien, de sorte que ce sera la grande confusion. Et il se lèvera dans une cinquantaine d'années, disait Nietzsche, un homme qui réalisera, qui mettra en pratique ce que j'ai écrit. » Et vous savez que Nietzsche était un homme très doux, fils et petit-fils de pasteur, tout ce que vous voulez. Il n'aurait pas tué une mouche, comme on dit, hein. Mais il a écrit des choses abominables, et vous savez que les œuvres de Nietzsche étaient les œuvres que lisait qui ? Hitler. Et le cadeau qu'il a fait au Duce, à Mussolini, c'est la série complète des œuvres de Nietzsche, hein. Et ça a été, comme il l'avait prophétisé, quelques 50 ans après. Mais évidemment, quand il était à Rome, derrière un corbillard, Nietzsche, étant devenu fou, criait « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Nous avons tué Dieu. L'histoire de la mort de Dieu, c'est pas les théologiens modernes qui l'ont inventé, Nietzsche a dit cela avant eux, et puis Jésus l'a annoncé bien avant Nietzsche, dans l'histoire du fils prodigue. Parce que le fils prodigue, en s'éloignant de la maison de son père, et en voulant l'héritage avant la mort de son père, qu'est-ce qu'il a montré ? Qui tuait son père, hein ? Tu mets trop de temps à mourir, donne-moi l'héritage. Quand vous demandez l'héritage à votre père, c'est que vous lui faites sentir, tu vis trop longtemps. Hein ? Donc, oui, c'est vrai ou c'est pas vrai ? N'est-ce pas? Donc, cette histoire de la mort de Dieu, le Seigneur nous l'a montré dans la parabole de l'enfant prodigue. Et qu'est-ce que l'enfant prodigue réalisera finalement? Car quand il est dans la misère, il pense à la maison de son père, et quand il revient, il aurait pu trouver son père mort. Pendant tout le temps où il était loin, le père aurait pu mourir. Mais qu'est-ce qu'il apprend? Mon fils que voici était mort. Qu'est-ce qui était mort? C'était pas le père, c'était le fils. Hein? C'est vrai, ça, c'est magnifique. Et il est revenu à la vie, il était perdu et il était retrouvé. Bon. Alors, vous voyez bien ce qu'il est dit. Il leur fut révélé, verset 12, dans Pierre, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que nous vous ont qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges sont intéressés par cette situation. Ils désirent plonger leur regard, parce que les anges, eux, n'ont pas eu besoin d'être sauvés, et ils trouvent ça tellement merveilleux, l'amour de Dieu pour des êtres tels que nous, que ça les passionne. Vous saviez que vous passionnez les anges ? Hein? Ça pourrait changer toute votre vie si vous vous disiez que les anges s'intéressent à vous. Ils s'intéressent à votre vie, ils s'intéressent à ce salut de Dieu pour vous, puisqu'il est dit qu'ils sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Eh bien, prenez conscience de cela et vous vous sentirez beaucoup plus en famille, et dans une famille céleste. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc c'est quand le Seigneur reviendra pour régner. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il n'y est pas encore à Sion. Mais il est dit qu'il doit revenir à Sion. Et que c'est de Sion, de cette capitale juive, de Jérusalem, que le Seigneur soumettra toutes les nations du monde après avoir délivré son peuple Israël. Il dominera au milieu de tous ses ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, parce que le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Hein. Tout ça, c'est un psaume prophétique, avec des ornements sacrés, et alors c'est tellement beau, du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Oh, toute cette jeunesse que nous voyons se perdre aujourd'hui, hein, eh bien, il y aura un temps où toute cette jeunesse viendra vers qui? Vers le Seigneur. Du sein de l'aurore, une nouvelle aurore va paraître, hein, quand le soleil de justice, qu'après chez Malachi, se lèvera. Mais avant que se lève le soleil de justice, qu'est-ce qui doit paraître pour les croyants que cette qui forme l'Église, l'étoile du matin qui se lève avant le soleil de justice, avant l'aurore. Dans le moment où la nuit se fait plus obscure avant le matin, l'étoile brille de tout son éclat et c'est lui que nous attendons. Et déjà, l'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs. Nous attendons non pas la colère, nous attendons Jésus. Parce que Jésus ne veut pas venir pour régner sans avoir son Église. Il ne régnera qu'avec son Église. Jésus n'est pas complet maintenant s'il n'a pas son corps. C'est ça qui est merveilleux. Le Christ total, c'est la tête et le corps. Et alors, il faut qu'il prenne d'abord les siens pour revenir avec les siens. Et c'est là que vous avez ce mystère que développe saint Paul. C'est qu'avant le retour en gloire du Seigneur, il doit se passer un événement extraordinaire, la disparition des vrais croyants. Dans toutes les dénominations, il y a ceux qui sont au Seigneur Jésus. Dieu connaît ceux qui sont les siens. Toutes les cathédrales, toutes les chapelles évangéliques, toutes les églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, quant aux bâtiments, resteront. Tous les systèmes humains que l'on a établis dans la chrétienté resteront, mais les vrais enfants de Dieu, ce qu'on appelle le monastère invisible, hein, ces âmes qui aiment le Seigneur, qui sont unies au Seigneur, vont disparaître. Serez-vous de ceux qui verront se lever l'étoile du matin et qui seront attirés par le Seigneur, qui comme un puissant aimant n'attirera à lui que ce qui est du même corps, que lui mettez des allumettes et des clous sur une table, vous passez l'aimant, il n'y a que les clous qui partent. Hein. Les allumettes peuvent être bien jolies, avoir une belle petite tête verte ou rouge, elles restent, elles sont bonnes qu'à brûler. Mais si vous êtes du même corps que l'aimant, eh bien, vous êtes attiré par l'aimant. Eh bien, que vos affections déjà vous poussent vers celui qui revient. Et si vous acceptez maintenant de souffrir avec lui, vous régnerez aussi avec lui. Et vous connaîtrez alors ce temps extraordinaire où l'on verra toute une jeunesse qui vient vers le Seigneur. Et alors vous pouvez reprendre le psaume 22, « J'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. » Et l'on racontera, ce sera plus cette éducation comme on a aujourd'hui, tous ces professeurs qui sapent la foi des gens pendant le règne. Eh bien, il y aura des écoles encore, on éduquera des enfants, mais on a des tableaux de ces moments-là où il est dit que toutes les extrémités de la terre, verset 28 du psaume 22, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel. Vous vous rendez compte? Il y en a combien qui pensent à l'Éternel aujourd'hui? Ils sont bien peu nombreux ceux qui pensent à l'Éternel. Et l'Éternel, à l'Éternel, et ils se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. c'est pas encore le moment, hein, mais ça vient. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Toutes les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Aussi, il n'y aura plus de famine. Les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Il y aura un équilibre au point de vue social, au point de vue monétaire, à tout cela qui chancelle aujourd'hui. Ce sera passé parce qu'il y aura un gouvernement vraiment juste et humain, une répartition des biens. Il est dit que chacun aura sa vigne et son figuier sur la terre. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Parce que justement, pendant le règne, ce qui sera différent de maintenant, c'est que le méchant sera retranché tous les matins. Immédiatement, dans la présence du Seigneur, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit, ceux qui résisteront au Seigneur, quand il sera visiblement sur la terre, seront immédiatement retranchés, de sorte que le mal ne pourra pas empirer. Tandis que maintenant, c'est une gangrène. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Si vous dites qu'il aurait dû intervenir et exterminer ceci et cela, vous savez que vous demandez votre propre mort. Quel longtemps que vous le seriez vous-même exterminé. Mais comprenez que si vous êtes encore là, c'est que Dieu vous a donné un temps de grâce. Parce que s'il vous avait frappé au moment où vous étiez dans le péché, eh bien vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Et moi non plus. Alors il m'a fait grâce. Mais vous voyez, si vous relisez le psaume comme on doit le lire, le psaume 22, le début c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la première venue. Et la fin du psaume, c'est sa seconde venue, quand il régnera après toutes ses souffrances. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération suivante, à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. C'est pas ça qu'on a aujourd'hui dans nos écoles. On n'annonce pas sa justice à nos enfants. Eh bien, comprenez, dites-vous, j'essaye de vous donner quelques jalons, mais dites-vous que c'est cela qui doit vous intéresser. Et alors on y arrive. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon à la manière de Melchisédek. Et là, donc, David, inspiré, reprend cette histoire de Melchisédek et l'appliquant au Messie, affirme que le Messie sera un sacrificateur à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres, c'est le jugement. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays, ceux qui auront voulu résister. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. C'est bien le Fils de l'homme qui, lorsqu'il allait de lieu en lieu, avait soif et il buvait de l'eau du torrent. C'est le Fils de l'homme, mais dans sa gloire millénaire, dans sa gloire future. Et alors, ayant ces textes, vous recevez plus de lumière pour relire c'est Hébreu chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, mais peut-être que vous en avez marre. Hein? Il nous est connu comme le roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il se porta à la rencontre d'Abraham. Vous vous retrouvez maintenant, hein? Quand celui-ci revint de l'expédition victorieuse contre les rois. Et alors vous voyez que ce Melchisédek devient vraiment un type du Seigneur quand il viendra régner. Hein. Parce que il est venu à la rencontre d'Abraham quand Abraham a battu les rois. Eh bien, le Seigneur viendra, version, et délivrera son peuple de tous ses ennemis. Et alors, il est dit ceci, que Abraham fut béni donc par Melchisédek et Abraham lui donna la dîme de tout le butin. C'est là les deux traits. Souligner deux traits principaux par lesquels est démontrée la supériorité de la sacrificature de Christ sur celle d'Aaron. Ces deux traits que vous trouvez déjà dans le chapitre 14 de la Genèse. Le premier, c'est que Melchisédek bénit qui ? Abraham. Or, il est dit que c'est le plus excellent qui bénit l'inférieur. Hein? Donc, Melchisédek est trouvé supérieur à Abraham. C'est une des choses. Il bénit Abraham. Et le deuxième trait, c'est qu'Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tout, lui qui était le patriarche auquel Dieu avait fait tant de promesses. Alors, vous voyez là éclater la grandeur de ce Melchisédek qui apparaît bien frappante si nous nous souvenons justement que le patriarche est dépositaire de toutes les promesses de Dieu, qu'il est le père des croyants, qu'il est un exemple de foi et de patience, comme vous l'avez vu au chapitre 6 des Hébreux. Et alors, en donnant la dîme à Abraham, eh bien, Abraham a reconnu la dignité du roi de Salem. Donc, il veut nous montrer que le sacerdoce d'Aaron n'est pas le premier sacerdoce. Il y en a un autre qui ne dépend pas de loi ou de commandement charnel, mais qui dépend de Dieu lui-même. Et alors, qui fut ce personnage mystérieux? Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice. Ensuite, il porte le titre de roi de Salem, donc roi de paix. En outre, il apparaît sans que l'Écriture mentionne ni père, ni mère. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un père et qu'il n'a pas une mère. Mais il est pris comme un exemple, puisque dans son histoire, on n'a pas de données sur son père, ni sur sa mère. Il ne faut pas vouloir aller plus loin. Il est pris comme type, comme figure. Qui est le père? Moi, je peux vous dire qui est le père d'Aaron, qui est le père de Moïse, qui est le père de ceci, qui est le père de cela. Mais quant à Melchisédek, si vous me demandez qui est son père, l'Écriture ne nous le dit pas. Hein. Comme aussi, l'Écriture ne nous a pas dit qui est le nom de l'auteur de l'Épître. Donc, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'auteur. Hein. Alors, quand il est dit qu'il n'a ni père ni mère, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un père et une mère. Mais, il apparaît dans l'Écriture sans que l'Écriture mentionne son père ni sa mère, ni aucun de ses antécédents. Il n'y a pas la moindre allusion à sa naissance ou à sa mort. Ses jours semblent n'avoir ni commencement, ni fin. Il demeure prêtre pour tous les temps. Sur tous ces points, il ressemble au Fils de Dieu. C'est une ressemblance. C'est pourquoi ce Melchisédek en est l'exacte figure. C'est une figure qui annonce, justement, le sacerdoce du Christ. Remarquez quelle position éminente cet homme a dû occuper aux yeux d'Abraham pour que lui, le patriarche, lui donnât la dîme, la meilleure part de son butin. La dîme, c'était la meilleure part du butin. Certes, la loi donne aux Lévites, qui reçoivent la prêtrise, le droit de lever la dîme sur le peuple. Sans lien de parenté avec la famille sacerdotale, il n'avait rien de commun avec Aaron, puisqu'il vivait avant Aaron. Et il a bien été élevé, il a bien levé la dîme sur Abraham lui-même. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui pourtant possédait déjà les promesses divines. Or, incontestablement, celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. De plus, dans le cas des Lévites, ce sont de simples mortels qui perçoivent la dîme. Tandis dans le cas de Melchisédek, il s'agit d'un personnage mystérieux dont l'Écriture affirme solennellement qu'il est vivant. Mais quand il est parlé là de ce Melchisédek, c'est déjà du Seigneur, hein, que Melchisédek, en quelque sorte, a représenté. Il nous donne une image de ce nouveau sacerdoce. Et en fin de compte, lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, on peut considérer que Lévi lui-même, qui aujourd'hui reçoit la dîme, dans la personne de ses descendants, l'a payé à cet homme. Comprenez-vous? Pour quelle raison? En effet, bien qu'il ne fût pas encore né, il existait déjà en puissance dans la personne de son ancêtre, Abraham, lorsque Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. Mais si les descendants d'Abraham avaient pris la pilule, eh bien, bien sûr que il n'y aurait pas eu de Lévi. Il est donc évident que celui qui préfigurait le Christ, vous voyez, il préfigurait le Christ, est infiniment supérieur à Abraham et à Lévi, donc que le Christ lui-même est supérieur au sacrificateur juif. C'est ce que l'auteur veut essayer de prouver. Alors, allons plus loin. Toute la législation donnée au peuple juif repose donc sur quel sacerdoce? Le sacerdoce lévitique. Souvenez-vous toujours que ces Hébreux convertis avaient envie de retourner au judaïsme. Alors, l'argument, c'est de leur montrer qu'il y a un autre sacerdoce que celui d'Aaron. Comprenez-vous? Et vous voulez retourner en arrière, mais alors vous vous priverez du plus grand sacerdoce, qui est celui du Christ, qui est assimilé au sacerdoce de qui? De Melchisédek. Or, s'il avait été possible d'atteindre à la perfection par le sacerdoce aaronique ou lévitique, et d'amener les hommes à une réelle maturité spirituelle, était-il nécessaire de susciter un autre prêtre institué à la manière de Melchisédek? Jésus est institué souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, c'est-à-dire sans être un descendant d'Aaron. Comprenez-vous? Parce que, justement, Melchisédek n'était pas du tout descendant de la famille d'Aaron, puisqu'il l'avait précédé. Pourquoi n'est-il pas dit simplement qu'il serait prêtre à la manière d'Aaron? Une modification du sacerdoce est donc intervenue. Or, un changement dans l'ordre sacerdotal entraîne forcément un changement de législation. C'est ce qui est arrivé. En effet, celui que désigne le texte cité fait partie d'une tribu autre que celle de Lévi. Aucun membre de cette tribu n'a jamais effectué le service de l'autel. Et ceux qui ont voulu l'effectuer, par exemple un Ozias, il est devenu lépreux. Hein. C'était impossible, c'était un péché de vouloir prendre le sacerdoce. Notre Seigneur est issu de la tribu de Juda. C'est là un fait connu de tous. Or, Moïse n'a jamais mentionné cette tribu à propos du sacerdoce. Qu'il y ait un changement dans l'ordre sacerdotal, cela devient plus évident encore si nous considérons ces autres prêtres institués sur le modèle de Melchisédek. Qui est cet autre prêtre? C'est Jésus. En effet, son élévation à la prêtrise ne repose pas sur un ensemble de lois imposées ou sur une filiation naturelle, elle est due au dynamisme d'une vie indestructible. Il a une vie impérissable. Écoutez en effet ce témoignage qui lui est rendu, tu es prêtre pour toujours comme Melchisédek. Ça, c'est le psaume 108. D'après cela, il est évident que l'ancienne législation se trouve désormais abrogée parce qu'elle était
inefficace et n'aider personne. Et c'est vrai ou est-ce faux? Elle n'aide personne. Retournez dans le judaïsme, vous ne serez pas aidé. Vous devrez. Et puis maintenant, même dans le judaïsme, est-ce qu'ils peuvent offrir des sacrifices? Non, depuis la destruction du temple, ils n'offrent pas de sacrifices, alors ils n'ont rien. Ils n'ont pas même un souverain sacrificateur, ils n'ont que des rabbins. Et alors, eh bien, nous avons tous les avantages en Jésus-Christ. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. Alors, si vous voulez savoir pourquoi la loi a été donnée, elle a été donnée d'abord pour être un frein dans le monde contre l'impiété, contre l'iniquité, parce que là où il n'y a pas de loi, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'anarchie. De sorte que la loi est quand même une bonne chose, parce qu'elle retient, au fond, un peu le mal. Hein. Mais en même temps, la loi a mis à nu notre cœur et nous a fait découvrir la puissance que peuvent avoir nos convoitises. De sorte que quand on a la loi devant soi, alors qu'on l'a peut-être demandé, bien, que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Mais quand il vous dit ce que vous devez faire, vous faites le contraire. Hein? De sorte que par la loi est venue la connaissance du péché. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Sans loi, je vivais, je ne savais pas que c'était péché. Mais maintenant qu'il y a une loi, je découvre en moi, dans ma conscience, je me dis c'est juste, hein, mais je trouve une force en moi qui me pousse à faire le contraire. Et alors, la loi m'est donnée aussi pour m'amener à soupirer après un autre ordre de choses, et c'est le 7 des Romains qui dit, mais la loi elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, mais moi je découvre que je suis pécheur, que je suis sous une puissance, la puissance du péché, misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. De sorte que la loi est notre pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ. Et une fois que nous avons Christ, nous avons le grand sauveur qui a réglé la question du péché et qui ne nous fait plus vivre sous la loi du « tu dois » et du « tu ne dois pas », mais qui nous fait vivre sous la grâce. De sorte que nous accomplissons les choses non plus par devoir, mais par amour. Et quand on fait les choses par amour, tout devient plus facile. Alors, d'après cela, donc, la loi n'a rien amené à la perfection, mais elle sert de préface à un ordre supérieur porteur d'une meilleure espérance. Parce que la loi disait, faites ces choses et vous vivrez. Et on était incapable de les faire. Donc, on était sous la malédiction. Un homme qui est sous la loi, il est sous la malédiction. Il n'a jamais d'assurance, il n'a jamais de certitude. Parce qu'un jour, vous l'avez accompli, puis le jour après, vous l'avez transgressé. De sorte que sous la loi, on n'est pas des gens libres. Et il y a un tas de gens qui sont sous la loi, qui ne sont pas libérés par Jésus-Christ. Tandis que, avec Jésus, on a une meilleure espérance. Par Jésus, nous avons un libre accès auprès de Dieu. Et alors là, tous les avantages, c'est que avant, vous veniez là au temps pour offrir vos sacrifices. Maintenant, quelqu'un est allé à votre place pour présenter son propre sang devant le Père en disant, eh bien voilà, par mon sacrifice qui t'a pleinement satisfait, toute la question du péché est réglée et vous êtes tenu comme juste. Dieu est juste maintenant en justifiant ceux qui ont la foi en Jésus. À tout cela s'ajoute donc une autre marque de supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. En effet, dans celle dont Jésus fut le médiateur, Dieu est intervenu par un serment. Sous l'ancienne alliance, les prêtres ont été établis dans leurs fonctions sans un tel serment. C'est facile à comprendre, ça je passe. Mais lorsque Jésus a été consacré prêtre, Dieu lui-même prêta serment. En effet, l'Écriture dit, le Seigneur l'a juré et jamais il ne reviendra sur sa parole. Tu es prêtre pour l'éternité comme Melchisédek. Voilà pourquoi l'alliance qui a Jésus pour garant est supérieure à l'ancienne. Il existe encore une autre différence. Les prêtres de la première alliance sont très nombreux. Ils doivent se succéder constamment les uns aux autres parce qu'ils meurent. Vous l'avez compris ça. Ils ne peuvent donc pas assurer leur fonction en permanence. Mais Jésus est éternel. Il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. Alors pourquoi est-ce que vous priez les saints? Comment? Parce qu'on est ignorant. Mais vous voyez ce que cela nous libère de lire la parole. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par son intermédiaire. Hein, voilà ce qu'on peut traduire. Il est toujours capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par son intermédiaire. Pourquoi voulez-vous aller par des saints? Ou même par Marie? Marie n'a jamais dit cela. Et il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur. Et qu'on ne vienne pas nous dire le contraire, parce que vous enlevez quelque chose au Seigneur. Quand vous donnez une gloire quelconque à des saints, vous la prenez à qui? À Jésus. Mais la communion spirituelle que nous avons déjà, les saints sont déjà vivants sur la terre, hein, tant qu'on est, on est déjà des saints, mis à part, séparés. Et puis la communion des saints, on va le voir dans le chapitre 11, je vis avec Abraham, je vis avec Joseph, je vis avec Marie, nous vivons en esprit. Quand nous pensons à cette nuée de témoins qui nous a précédés, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous vivent, et leurs exemples sont là pour influencer tout notre comportement, leurs manquements sont là pour que nous ne fassions pas les mêmes choses, c'est pour ça. Alors, nous avons une communion, n'est-ce pas, entre tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus, sans devenir des spirites. Hein. Nous n'évoquons pas les esprits des morts, et nous savons qu'ils sont dans le repos, mais pour nous, ils ne sont pas perdus. Et plus nous vivons près du Christ, plus nous vivons près de nos bien-aimés qui nous ont devancés. Nos bien-aimés qui nous ont devancés, ceux qui sont morts dans la foi, ou comme les petits-enfants aussi, eh bien, ils sont en Christ. C'est moi qui le dis, hein. Ils sont en Christ dans le repos, loin de la lutte. C'est pourquoi ils ont un avantage sur nous. Parce que nous sommes en Christ, mais dans le combat. Hein? On est encore dans le combat, nous. Mais eux, ils ont, c'est pour ça que Paul disait, être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Mais si je dois vivre, il en vaut quand même la peine. Mais pour nos bien-aimés qui nous ont devancés, il n'y a plus de danger pour eux. Ils ne peuvent plus tomber ni dans le péché, et il ne peut plus leur arriver aucun malheur, aucune souffrance. Ils attendent dans la paix, dans la contemplation de la face du Seigneur, le jour de la résurrection. Et quand le Seigneur viendra, que la trompette sonnera, les morts ressusciteront premièrement, et nous les vivants, qui demeurons à l'avenue du Seigneur, jusqu'à l'avenue du Seigneur, si nous sommes de cette génération-là, nous les rejoindrons sur les nuées du ciel, et ensemble, nous entrerons dans les aimables demeures de la maison du Père, où Jésus célébrera les noces de l'agneau. Nous sommes, si nous avons donné notre cœur au Seigneur, comme les fiancés du Christ. Vous avez dit votre oui au Seigneur? Alors vous pouvez accepter les autres sollicitations? Vous êtes fiancé avec quelqu'un qui est dans le ciel. C'est le Seigneur. Alors quand le monde vient nous faire ses propositions, repart. C'est Christ. Et alors, les fiançailles, on les emploie à quoi? À nous préparer pour habiter dans notre futur home. On est encore chez nos parents terrestres, mais déjà en pensée, on est dans notre futur home et on se prépare pour pouvoir satisfaire pleinement notre bien-aimé Sauveur. Et Seigneur, il faut que toutes ces choses deviennent plus simples pour nos cœurs et que ce soit là les réalités de tous les jours. Alors, ses prêtres devaient se succéder, mais Jésus est éternel, il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. Voilà pourquoi, donc, il n'y a pas d'autre intermédiaire, et il peut toujours intervenir en faveur de nous tous auprès de Dieu. Il peut donc nous sauver pleinement, ou jusqu'à l'achèvement. Nous sommes sauvés qu'en espérance, maintenant nous sommes encore dans des corps de faiblesse. Mais nous savons que, grâce à son sacrifice, comme il a été reçu auprès du Père, qu'est-ce qu'il fait pour nous auprès du Père? Il est notre souverain sacrificateur. Il nous représente. Alors, comme souverain sacrificateur, il est capable de sympathiser à quoi? À nos infirmités. Quant à nos soucis, quant à nos peines, le Seigneur est capable de sympathiser et de porter tout cela. Mais quand nous avons péché, qu'est-ce qu'il est pour nous? Vous l'avez dit aussi. Il est notre avocat. Quant à nos peines, à nos infirmités, il est notre souverain sacrificateur qui a été rendu semblable aux hommes, qui peut nous comprendre en toutes nos circonstances et qui vient à notre rencontre comme Melchisédek dans la vallée de Chavé. Eh bien, le Seigneur vient toujours à notre rencontre. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Nous avons couru chercher des délivrances ailleurs alors que la délivrance venait. Le Seigneur venait, mais nous n'avons pas su attendre le dernier quart d'heure. Et nous avons couru, nous sommes essoufflés, nous sommes fatigués. Nous avons voulu trouver notre délivrance nous-mêmes. Aide-toi, si elle t'aidera. Il faut dire attendre le Seigneur. Le Seigneur est là. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Ma main est-elle trop courte pour que je puisse délivrer? Relisez Ésaïe 50, imprégnez-vous de la parole de Dieu. Et alors, quand nous avons péché, eh bien l'accusateur des frères porte une accusation devant Dieu contre nous, puis il ment pas toujours, hein. Quelquefois c'est vrai ce qu'il dit de nous. Mais nous, automatiquement, qu'est-ce qu'on ressent? Une tristesse. Hein. Si le Saint-Esprit habite en vous, vous ne pouvez plus pécher sans souffrir. On peut encore pécher, hein, parce qu'on est tenté. Et si on n'a pas les yeux fixés sur Jésus, on pêche. Mais on ne peut pas pêcher en regardant les yeux de Jésus. Il y a une puissance dans son regard. Vous ne pouvez pas pêcher en regardant les yeux de Jésus. Chaque fois que je pêche, c'est que j'ai détourné les yeux de Jésus. C'est pourquoi il sera dit, fixant les yeux sur Jésus. Le chef est le consommateur dans la foi. On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. C'est clair? Je dis pour moi ça. Mais je regarde des fois ailleurs. Alors je dois m'humilier. Parce que quand le Saint-Esprit est contristé, je suis malheureux. Je sais trop ce que donne le Saint-Esprit comme bonheur intérieur pour que je puisse m'en passer. Et la réalité de la présence de l'Esprit en nous, qui est une personne très sensible, eh bien, nous donne tant de joie. Alors, quand le psalmiste a eu péché même gravement, puisqu'il a même commis un adultère, hein, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière, le Miserere, psaume 51? Est-ce qu'il dit, j'ai perdu mon salut? Il dit, rends-moi la joie de ton salut. C'est la communion qui est interrompue par le péché. Et comme un enfant qui a désobéi et qui ne peut pas recevoir, au fond, la bénédiction de ses parents tant qu'il ne s'est pas repenti, hein, eh bien l'enfant est malheureux. Mais quand il revient à son père ou à sa mère et qu'il reconnaît sa faute, il reçoit le baiser de la réconciliation et il reprend ses jeux avec joie. Comprenez-vous? Eh bien, voilà ce que nous sommes. Et nous avons un Seigneur et qui nous sauve jusqu'à l'achèvement parce que, quand vous pensez, il est dit dans le chapitre 5 des Romains que quand nous étions, Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies. Alors il dit, combien plus serons-nous maintenant sauvés par sa vie, si nous sommes maintenant au Seigneur, si nous lui avons donné notre cœur, eh bien, lui qui nous a aimés au point de donner sa vie quand nous étions impies, combien plus va-t-il nous sauver par sa vie? Et il intercède pour nous auprès de Dieu. Il est notre garant auprès de Dieu, le garant de notre salut. Je n'ai aucune confiance en moi quant à mon salut, mais j'ai une entière confiance en lui pour mon salut. Comprenez-vous? Je ne fais pas reposer l'assurance de mon salut sur ce que je suis, sur ma piété, sur ma dévotion et sur tout cela, ou sur mes œuvres. Je fais reposer mon salut sur une œuvre qui a été faite en dehors de moi, une fois pour toutes, et qui a coûté un prix infini au Seigneur sa vie. Quand vous dites que le salut est gratuit, c'est vrai dans un sens, mais ça n'a pas été gratuit pour le Seigneur. Le prix de la grâce, comme le disait le théologien Bonhoeffer, qui était pendu juste avant la libération, parce qu'il ne pouvait pas accepter Hitler, eh bien, le prix de la grâce, c'est le prix infini, c'est la vie de Jésus. Alors ne me dites pas que c'est un petit salut, puis qu'on est sauvé gratuitement comme ça. Vous êtes sauvé parce qu'un autre est mort à votre place. Alors ça change la vie d'un homme. Mais Jésus est là, notre grand prêtre. Et ce qui est merveilleux, c'est que là où il est déjà, il nous introduit. Mais est-ce que notre enlèvement spirituel a déjà eu lieu? Parce que c'est à cela qu'il faut en venir. Si notre souverain sacrificateur est là dans les cieux, où devons-nous aller? Là où il se trouve, dans nos pensées. Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3. Cherchez les choses qui sont en haut. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Délaissez les choses de la terre. Elles ne sont que passagères. Elles sont trompeuses. Elles finissent. Un jour, elles vous abandonneront. Un jour, vous savez bien, la terre n'a même plus de place pour nous. On nous fait un trou et on nous met dans le trou. Alors, je veux qu'on chante, je veux qu'on danse quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Hein, oui. C'est tout ce que la terre peut me donner. La terre qui a eu tant de place dans mon cœur, le monde qui a eu tant de place dans mon cœur, il me met dans le trou. Tandis que le Seigneur qui nous a tant aimés, où nous prend-il? Auprès de lui, dans les aimables demeures de sa maison. Il s'est offert pour nos péchés une fois pour le sacrifice ne peut pas être renouvelé. Nous commémorons le sacrifice à la table du Seigneur, mais nous ne le renouvelons pas. C'est fait une fois pour toutes. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes faillibles et imparfaits. Celui que Dieu a établi postérieurement à la loi, par un serment solennel, c'est son propre fils, rendu parfait pour toujours. Qui voulez-vous comme prêtre? Jésus. Voilà, je vous ai tenu bien longtemps encore une fois. Mais est-ce que il y a des questions maintenant?
Ça me plaît sûr qu'avant, à Rome, il y avait une certaine
participation. C'est-à-dire, Melchisedec, qui apparaît ainsi, est pris pour représenter la sacrificature parfaite que le Christ a. Oui, c'était un homme. Melchisedec est un homme, mais qui est assimilé au Fils de Dieu, qui est pris comme type, comme figure. Mais il n'est pas de la lignée d'Abraham, puisqu'il est avant Abraham. Qui vous montre que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de toute la terre, le Dieu de toutes les nations, et qu'il y a salut non pas seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations de la terre.
La question du salut avant Christ.
Alors, la question du salut avant Christ, eh bien, il y a eu au début connaissance de Dieu. Mais les hommes ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils devinrent vains dans leur raisonnement, leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres, se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image d'abord d'hommes corruptibles, on a adoré l'homme, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles, puis on a adoré la pierre et la matière, n'est-ce pas? Donc, il y a eu une évolution régressive quant à la connaissance de Dieu. Mais au début, on a vraiment connu Dieu. Et il y avait une sacrificature de ce Dieu très haut. Il y a eu des hommes qui sont restés avec cette connaissance de Dieu avant Abraham. Mais la majorité a été plongée dans
l'idolâtrie. Alors Dieu, à ce moment-là, a sorti un homme, Abraham, et s'est consacré à son éducation pour faire sortir de cet Abraham une descendance, un peuple, d'où allait sortir qui ? Le Christ, hein ? Le Messie qui sera en bénédiction à toutes les nations de la terre. Mais il emploierait ce peuple juif pour donner naissance au Christ. Et l'incarnation, justement, du Seigneur dans le peuple juif, on pourrait se figurer un dialogue entre le Père et le Fils, hein, quand il décide qu'il va s'incarner. Quelle nation vas-tu prendre ? Mais quelle nation va-t-il prendre ? Les Juifs ? Oh non, Seigneur. Oh non, Père. Pas eux. Parce que là, ils sont trop exécrables. Relisez le tableau qu'en fait Moïse lui-même, un peuple au cou raide et qui ne fait que murmurer. Ah non, n'importe quel peuple, mais pas le peuple juif. Eh bien, je prendrai justement le peuple juif. Hein. Je viendrai dans le peuple le plus dur, le plus rebelle, le plus récriminateur, celui qui pousse du coude des autres pour prendre la place, peut-être. Mais voilà, je naîtrai là, au milieu de ce peuple, quitte à être rejeté par lui. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Il a dit, c'est pas parce que vous étiez meilleur que tous les peuples, vous étiez le moindre de tous les peuples. Hein. Et alors, Dieu s'est incarné dans ce peuple pour se mettre vraiment à la portée de tous et même du plus mauvais. Voilà ce que le Seigneur a fait. Non, il ne semble pas, c'était un temps, parce qu'après tout est retombé, puisque quand les descendants d'Aaron viennent à Jérusalem et quand finalement David arrive à prendre la forteresse des Jébusiens, eh bien c'est les Jébusiens, donc des païens, qui occupent de Jérusalem. Tout est retombé dans le paganisme. Mais il y a eu donc au cours de l'histoire de ces hommes de Dieu et qui avaient maintenu une foi au Dieu très haut et qui n'adoraient pas des idoles. Mais d'une façon générale, tout le monde entier était retombé dans l'idolâtrie. Il y a eu d'abord le déluge qui a fait périr tous ces idolâtres, hein, mais les descendants de Noé, qui auraient dû être fidèles, eh bien, eux aussi, après avoir connu la délivrance de l'arche, ils sont retombés dans l'idolâtrie. Les descendants de Noé sont retombés dans l'idolâtrie. Et Abraham lui-même était un païen. Hein. Et il a été pris et sorti du paganisme, sort de ton pays et de ta parenté, et Dieu se consacre à lui pour faire son éducation. Et c'est par lui que naîtra le Messie. Mais alors, pour en finir avec cette question, comment ont été sauvés les hommes d'avant la croix, d'avant la crise ? Ils étaient, depuis la chute, la promesse avait été faite que viendrait un libérateur. Et tous les hommes attendaient ce libérateur. La postérité de la femme avait dit, le Seigneur t'écrasera la tête. Il n'est pas dit que c'était la femme qui écraserait la tête du serpent. Relisez même dans vos Bibles catholiques, c'est la semence de la femme, la postérité de la femme. C'est pas Marie qui a écrasé la tête du serpent, c'est le fils de Marie. Et toi, tu la blesseras au talon. Le talon, c'est la partie la plus basse de notre être par laquelle nous touchons à la terre. Ça voulait dire que ce Messie, ce libérateur, écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire la puissance du diable, mais que lui-même serait blessé dans son humanité. Et c'est ce qui est arrivé à la croix. La croix, c'est la blessure au talon. Christ a été frappé dans son humanité. Et du reste, il avait revêtu cette humanité pour mourir, pour accomplir le dessein du Père, et qui, étant un Dieu saint, un Dieu de lumière, ne pouvait pas simplement pardonner nos péchés par un coup d'éponge. Il fallait que justice soit faite. Et c'est cela qui est merveilleux. Vous êtes sauvés en vertu
vertus d'un sacrifice, pas simplement de la miséricorde de Dieu, mais quelqu'un a payé. Et c'est ça qui libère votre conscience. Comprenez-vous? Votre conscience, il est dit que vous pouvez même paraître devant Dieu sans conscience de péché. Nous allons voir ça dans le chapitre 10 des Hébreux. Voilà jusqu'où le Seigneur est allé. Oui. Mais parce que nous, nous sommes encore dans des corps de chair, dans un monde de péché, notre âme est sauvée, mais nous sommes sauvés en espérance parce que nous sommes encore dans une condition de faiblesse. Et alors, pour Dieu, tout est réglé, tout est parfait, mais pour notre tranquillité, pour notre apaisement, parce que quand vous faites quelque chose de mal, vous n'êtes pas heureux, alors nous avons la confession. Si nous confessons nos péchés, à qui? À Jésus. C'est pas un prêtre, parce que vous n'en finissez pas, le pape aussi a son confesseur. Alors, un prêtre vous confesse, et puis lui-même, il doit se confesser à qui? Un autre prêtre, hein. Et puis, ça va toujours sur la terre, hein. Chacun se confesse à un autre, et le pape lui-même a son confesseur. Alors, c'est pas le prêtre qui peut vous donner l'absolution. Nous pouvons annoncer le pardon des péchés, mais nous ne pouvons pas le donner. Qui est-ce qui donne le pardon des péchés? C'est Jésus, c'est clair. Mais moi, qui suis au service du Seigneur, je peux discerner si tu viens me confesser quelque chose parce que tu en as besoin, peut-être parce que des fois ça fait du bien d'ouvrir un homme, parce que quelqu'un dit Dieu on le voit pas, hein, alors on se confesse dans sa chambre, on le voit pas, et quelquefois on a besoin. Alors confessez vos fautes l'un à l'autre, priez les uns pour les autres. Alors si quelqu'un vient vers moi et puis me dit ben vous savez je suis troublé parce que j'ai volé un tel, alors je me suis confessé au Seigneur et je voudrais encore vous le dire à vous. Alors, qu'est-ce que je lui dirai? Est-ce que tu as rendu? Est-ce que tu es allé trouver celui qui t'a offensé ou celui qui t'a volé? Oh non, il en a assez lui-même. Ça, alors, je lui retiens son péché, vous comprenez? Je ne peux pas lui dire qu'il est pardonné, là. Alors, c'est ça, ce discernement. À celui à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À celui à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. C'est un discernement que Dieu nous donne. Mais quand vous voyez quelqu'un qui s'est vraiment humilié et qui a réparé, mais qui se dit, est-ce que vraiment Dieu a pu me pardonner? Alors, je peux le libérer de ce poids parce que je vois que son humiliation était vraiment sincère. Et au nom du Seigneur, je peux lui dire, tes péchés sont pardonnés. Tu as un avocat devant le Père qui a présenté son sang pour toi et qui dit, mais j'avais aussi payé pour ce péché-là. Parce que quand Christ est mort, nous n'étions pas encore en vie. De sorte que ce qu'il a porté sur la croix, c'est les péchés de toute notre existence. Comprenez-le bien. Mais alors ne dites pas, oh bien belle affaire, alors je continue de pécher. Mais c'est pas possible si vous savez que Jésus a payé ce prix infini de sa vie. Est-ce que vous continuerez de pécher? Vous aurez en horreur le péché. De sorte que si vous péchez encore, ce ne sera plus que comme un accident parce qu'on n'a pas su veiller. Comprenez-vous? Mais on commence à avoir la haine du péché, l'horreur du péché. Mais comme on sait qu'on est faible, eh bien on se détourne de soi pour vivre avec Jésus. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Mais il faut une relation avec Jésus. Et la vie éternelle, c'est pas quelque chose que l'on met dans sa poche. C'est pas un billet de chemin de fer gratuit pour le ciel, en première classe ou en wagon-lit. Ce n'est pas non plus un passeport, un visa pour le ciel qu'on aurait sur un passeport, le salut. Et c'est pas une assurance contre l'incendie éternel, hein, contre l'enfer. C'est une relation personnelle avec Jésus. Oui, parce que justement, voilà pourquoi. Il est notre avocat parce qu'il y a quelqu'un qui nous accuse et qui ne laisse rien passer. Il est dit dans Apocalypse 12 que l'accusateur des frères, donc Satan, il se tient devant Dieu jour et nuit. Il n'a pas beaucoup de sommeil. Hein. Jour et nuit pour accuser les frères. L'accusateur des frères. Puis vous savez, hein, il voit très bien le défaut de notre cuirasse. Et alors, c'est pourquoi nous ne voulons pas donner occasion au diable. Vous comprenez ces versets? C'est tout un ensemble. Nous n'ignorons pas ses desseins, alors ne donnons pas occasion au diable. Mais si nous lui avons donné occasion et que nous sommes tombés, eh bien, revenons au Seigneur. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? C'est pas le 6 des Romains, le 6 des Hébreux, où il est dit qu'on ne peut pas être renouvelé. Comprenez-vous? Parce que ça, ce qu'il est dit dans le 6 des Romains, c'est celui qui a vraiment apostasie. Est-ce que c'est assez clair? Oui, alors ceux de l'Ancienne Alliance, ils vivaient dans la foi en celui qui viendrait. Nous, nous vivons dans la foi en celui qui est venu et qui reviendra. Mais eux, il est dit que Dieu a supporté les péchés précédents, mais que Christ allait porter. Tous ceux qui sont morts avant la croix sont sauvés par la croix. Vous comprenez? Mais non, je n'ai pas dit ça.
Mais tous ceux qui sont morts avant la croix, ils sont...
Mais ceux qui sont morts, qui étaient croyants, qui ont gardé cette espérance, qui ont cru la promesse de la venue d'un libérateur, il y avait Siméon, il y avait tous les autres, et Abraham, il a été sauvé par quoi? Par ses œuvres ou par la foi? Par la foi en celui qui allait venir, tandis que nous sommes sauvés par la foi en celui qui est venu.